Vous écoutez, on lit pour vous.
La culture Innu, menacée par la crise climatique, un texte d'Alexandre Shields, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir. Après les conséquences dramatiques de la colonisation et les effets de l'exploitation industrielle de leur territoire, les Innu font plus que jamais face à la crise climatique qui menace directement leur mode de vie traditionnel et donc leur culture plusieurs fois millénaire et étroitement liée au Nitassinan, leur territoire ancestral. Dans le Nutshimit, soit l'intérieur des terres, en langue Innu, les dérèglements du climat se font déjà sentir de manière alarmante, prévient l'ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, dans sa préface de l'Atlas, Mishta Mishkutshipalu, Tchishchik, dont le titre signifie « le temps qui change ». On pense notamment aux incendies de forêt qui ont touché nos terres et nos communautés en 2023. Ces bouleversements hypothèquent notre avenir, mais surtout celui des générations dont le bien-être dépend presque entièrement des actions que nous posons aujourd'hui, souligne aussi M. Picard, en évoquant la vulnérabilité des Premières Nations face au gouffre climatique prédit par la communauté scientifique depuis des années. Cet atlas thématique, fruit de 5 ans de travail entre scientifiques et Innu, dresse un portrait inédit et exhaustif des bouleversements climatiques sur le Nitassinan de Pessamit. Soit un territoire de plus de 138 000 km² situé entre le littoral de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent et le réservoir de Kanyapisco. Jamais, en plus de 8 000 ans d'occupation du territoire de la côte nord, en étroite relation avec la nature, les Innus n'ont vécu un tel dérèglement du climat. Selon les constats mis en lumière dans l'ouvrage, les températures plus élevées sont déjà une réalité, de même que les événements climatiques extrêmes qui découlent du réchauffement. Injustice climatique. Ces bouleversements, imputables à notre dépendance aux énergies fossiles, ont des effets cumulatifs, déplore Jérôme Bacon-Saint-Onge du Conseil des Innus de Pessamit. Ils perturbent les cycles naturels sur le territoire, et ce, pour toutes les saisons. La hausse continue des températures nuit aussi à la biodiversité en menaçant des espèces fauniques et floristiques, ce qui affecte directement l'accès aux ressources qui constituent les fondements même de l'identité, de la langue et des traditions Innues. Les communautés souffrent de manière démesurée des effets du réchauffement climatique, parce que leur survie culturelle est menacée. Et si les Innus n'ont plus accès au territoire et que la qualité de l'environnement est dégradée, c'est une forme d'injustice climatique parce que leur culture est menacée, explique Marie Saint-Arnaud de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, qui a co-dirigé l'Atlas. Qui plus est, le pire est à venir, puisque la hausse des températures moyennes annuelles sur le territoire pourrait atteindre 5,5 degrés Celsius à 6,5 degrés Celsius d'ici 2100. Résultat, ce territoire nordique verra se multiplier les jours de gel des gels, les pluies hivernales et les épisodes de verglas qui rendront les hivers plus imprévisibles et plus risqués pour les déplacements. Les répercussions du changement climatique se feront également sentir sur la faune et la flore locale. L'ouvrage fait notamment état de plantes, arbres et fruits, et d'animaux, dont le caribou forestier et le saumon, qui sont historiquement liés aux Innus et qui sont plus que jamais malmenés par le réchauffement. D'ici la fin du siècle, les canicules pourraient devenir chose courante sur le Nitassinan, précisent aussi les scientifiques qui ont collaboré à la rédaction de l'ouvrage. La chaleur estivale et des sécheresses prolongées signifieront que l'occurrence, la durée et la gravité des feux augmenteront dans le futur. L'année 2023, avec ses incendies dévastateurs, pourrait donc être le prélude d'une situation qui deviendrait fréquente, au point où la résilience de la forêt serait menacée. Les bouleversements seront énormes pour leurs activités traditionnelles, résume Philippe Gachon, co-directeur de l'Atlas et professeur au département de géographie de l'UQAM. La forêt joue un rôle majeur et elle a une valeur inestimable pour les ressources alimentaires, mais aussi pour la biodiversité. Ils entretiennent un lien culturel très important avec la forêt. Un territoire surexploité. Les effets actuels et à venir de la crise climatique sont d'autant plus inquiétants que la hausse des températures s'ajoute aux conséquences de l'exploitation industrielle du Nitassinan, qui signifie notre terre. L'industrie forestière, active depuis maintenant plus d'un siècle, est la principale source de perturbation du territoire. En plus d'avoir fait disparaître des pans entiers de vieilles forêts, cette exploitation a nécessité la construction de plus de 45 000 km de chemins qui contribuent à la destruction des écosystèmes et notamment l'habitat d'une espèce cruciale pour les Innus depuis des millénaires, le caribou forestier appelé Minash-Kuo-Atiku. C'est l'emblème de notre identité et il nous a permis de survivre pendant des millénaires sur notre territoire, souligne Jérôme Bacon-Saint-Onge, en rappelant que cet animal fournissait à lui seul nourriture, vêtements, abris et outils, en plus d'occuper une place centrale dans la vie spirituelle des Innus. Dans ce contexte, soulignent les auteurs de l'ouvrage, l'état précaire des populations de caribous et l'engagement de la communauté à ne plus le chasser pour le protéger engendrent des pertes culturelles inestimables au regard de la langue, du savoir, des activités traditionnelles et du mode de vie des Innus. En l'absence de mesures pour freiner le déclin constaté depuis plusieurs années chez les différentes populations de caribous du Québec, la situation continue d'ailleurs de se dégrader. C'est le cas dans le secteur du Pipmuacan. Ce vaste territoire est soumis à l'exploitation forestière alors que les Innus réclament depuis longtemps la création d'une aire protégée. Le gouvernement Legault a refusé cette demande, même si les caribous y sont en voie d'extinction. Pour M. Bacon-Saint-Onge, il était donc important de mener à bien ce projet d'atlas thématique afin de mettre en lumière les répercussions de la crise climatique et de l'exploitation industrielle. Ces deux phénomènes imposés aux Premières Nations viennent amplifier les conséquences des politiques d'assimilation mises en place par l'État canadien et qui ont profondément perturbé l'occupation ancestrale du territoire. Cet atlas, partagé à tous les citoyens de la communauté, se veut aussi une invitation à réfléchir à la suite du monde. On voulait lever un drapeau rouge, parce que si on n'agit pas maintenant, ce sera pire dans les décennies à venir. C'était « La culture Innue menacée par la crise climatique », un texte d'Alexandre Shields, paru le 6 mai 2025 dans Le Devoir.
Où se cache la vie extraterrestre? Un texte de Danny Lawler de l'Agence France-Presse paru le 17 avril 2025 dans Le Devoir. Les scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la difficulté de la quête d'une vie extraterrestre dont des astronomes ont annoncé dernièrement avoir trouvé de possibles indices sur une exoplanète. Une équipe américano-britannique a détecté dans l'atmosphère d'une lointaine planète, K2-18b, les traces chimiques les plus prometteuses à ce jour d'une possible présence de vie dans une étude dont les résultats sont encore à confirmer. Notre galaxie, la Voie lactée, existe depuis environ 10 milliards d'années et compte plus de 100 milliards d'étoiles. Elle abrite donc probablement à elle seule un nombre vertigineux de planètes potentiellement habitables. Dans ce cas, où est tout le monde? S'est interrogé en 1950 le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner entre collègues restés célèbres. Selon ce paradoxe de Fermi, avec suffisamment de temps, chaque espèce extraterrestre devrait finir par avoir son propre Elon Musk qui irait coloniser l'étoile suivante, explique à l'AFP Jason Wright, directeur du Centre de recherche sur l'intelligence extraterrestre à l'Université d'État de Pennsylvanie. Au moins 75 solutions hypothétiques à ce paradoxe ont été proposées selon un livre publié en 2015. Il est possible que l'humanité n'ait pas encore détecté de vie extraterrestre parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Beaucoup de scientifiques jugent cela peu probable. Environ 87% de ceux interrogés dans un récent sondage de Nature Astronomy pensent qu'il existe au moins une forme de vie extraterrestre basique. En plus de 67% que des civilisations intelligentes existent aussi. Il est aussi possible que les extraterrestres soient déjà là sans que nous les ayons remarqués, ou que cela ait été dissimulé. L'espace interstellaire est peut-être trop difficile à traverser, les distances trop vastes, les ressources nécessaires trop importantes. Une autre théorie est celle d'un grand filtre qui empêcherait la vie d'émerger ou de dépasser un certain stade de développement. Une fois qu'une civilisation maîtrise la technologie du voyage spatial, elle pourrait avoir tendance à s'autodétruire ou à épuiser les ressources naturelles de sa planète. Des théories sont encore plus spéculatives. Selon l'hypothèse du zoo, des extraterrestres technologiquement avancés choisiraient de nous laisser tranquilles, nous observant de loin. Celle du planétarium suggère que les extraterrestres créent une illusion qui rend l'espace vide à nos yeux. Une autre imagine l'univers comme une forêt sombre où chacun se cache pour ne pas se faire détruire. Mais il y a un problème majeur avec bon nombre de ces soi-disant solutions, estime M. Wright. Elles partent du principe que toutes les civilisations extraterrestres hypothétiques se comporteraient de la même façon et pour toujours. C'était « Où se cache la vie extraterrestre ?» un texte de Daniel Lawler de l'agence France Presse paru le 17 avril 2025 dans Le Devoir.
Les limites de la mélatonine. Un texte de Mathieu Perrault paru le 11 mai 2025 dans La Presse. Un lecteur demande « Des scientifiques ont-ils étudié le lien entre la mélatonine et le sommeil ?» Pour le moment, l'utilité de donner un supplément de cette hormone semble être limitée au décalage horaire et à des troubles du sommeil chez certains enfants autistes. La mélatonine est beaucoup utilisée par les parents d'enfants qui ont des problèmes de sommeil, explique Charles Morin, psychologue spécialiste de l'insomnie à l'Université Laval. Les médecins la prescrivent facilement parce que c'est en vente libre, ajoute-t-il, et qu'on a l'impression que c'est sans danger. Mais justement, un rapport vient d'être publié sur son peu d'efficacité chez les enfants et aussi sur ses dangers. Le rapport de l'Association pédiatrique internationale sur le sommeil, IPSA, publié dans la revue Sleep Medicine en janvier, conclut que les seules données probantes sur l'efficacité de la mélatonine pour aider les enfants à s'endormir concerne certains troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme. Ces enfants ont parfois l'équivalent d'un décalage horaire, explique M. Morin. Justement, la mélatonine est aussi efficace contre le décalage horaire. Ça peut diminuer la période d'adaptation quand on va en Europe ou on en revient, dit M. Morin. Que faire alors en cas de trouble du sommeil? Faire une psychothérapie anti-insomnie, répond d'emblée M. Morin. Ça marche dans 70 % des cas et dans un cas sur deux, l'insomnie est réglée à long terme, indique le chercheur. Pour les adultes, la psychothérapie dure de 2 à 3 mois et comporte un volet d'amélioration des habitudes de sommeil, puis un volet cognitif. On travaille sur les ruminations, les obsessions et les inquiétudes liées au sommeil, explique M. Morin. Pour les enfants, on travaille davantage sur les habitudes de sommeil, notamment l'absence d'écran 1 à 2 heures avant le dodo. Des études ont montré que les écrans nuisent au sommeil chez les adolescents. Une étude que Charles Morin a publiée en 2023 dans le prestigieux JAMA Network concluait que la psychothérapie est aussi efficace qu'un somnifère sur ordonnance pour guérir l'insomnie et diminue même davantage l'anxiété liée à l'insomnie. Mais il y a tellement peu de gens qui ont recours à la psychothérapie pour l'insomnie que M. Morin n'a même pas inclus cette question dans une enquête sur les méthodes utilisées par les Canadiens pour lutter contre l'insomnie publiée l'automne dernier dans Sleep Medicine. Réglementation. L'étude de Sleep Medicine sur la mélatonine chez les enfants montrait que 18 % des petits Américains prennent de la mélatonine contre moins de 2 % il y a 10 ans et que le nombre de visites aux urgences pour un abus de mélatonine a bondi de 420 % entre 2012 et 2021. Il y a beaucoup de variabilité dans la quantité de mélatonine des produits en vente libre, dit M. Morin. Il peut y avoir 80 % moins de mélatonine que ce qui est indiqué sur le flacon, ou alors 5 fois plus. Au Centre antipoison du Québec, on rapporte 425 cas d'exposition à la mélatonine en 2024, contre 314 en 2020. Dans 93 % des cas, la personne est restée à la maison et 98 % étaient non toxiques, sans effet observable. À l'hôpital de Montréal pour enfants, la directrice des communications, Christine Boutillier, indique qu'il n'y a pas d'augmentation de visites pour ingestion abusive de mélatonine. Source : Sleep Advances, chez les enfants québécois de 2,5 à 10 ans. 8 % mettent plus de 30 minutes à s'endormir. 60 % mettent entre 15 et 30 minutes à s'endormir. 32 % mettent moins de 15 minutes à s'endormir. C'était « Les limites de la mélatonine », un texte de Mathieu Perrault paru le 11 mai 2025 dans la presse.
Nos solitudes en parallèle, un texte de José Blanchette paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir. J'aimerais dire qu'elle m'a assez fait souffrir, mais ce serait injuste, car elle me répare aussi. J'aimerais l'envoyer paître parfois, mais je sais qu'elle est ma plus sûre alliée. On pourrait songer à une relation toxique si le mot « misanthrope » n'existait pas. À trop la fréquenter, je pourrais me perdre. J'en ai besoin quotidiennement et je me porte volontaire pour être ministre, bénévole, de la soledad. On la trompe, on la meuble ou on la travestit. Moi, je la préfère toute nue, cul sec. Tu me diras, Joe Blow, c'est pas sérieux de parler de solitude en mai, les tulipes, tulipes, enfin, et la journée mondiale de « c'était le 23 janvier ». Eh bien, si, pour la même raison que les jeunes de 18 à 24 ans, 62 % en France, 49 % ici, se sentent parfois ou souvent plus seuls que le reste de la population parce que c'est l'âge où tu es censé te la péter alors que tu es en mou derrière ton écran à gamer ou à regarder un tutoriel de eyeliner passé minuit. Le reste de l'univers semble s'éclater sans toi. Du moins, si on en croit les réseaux sociaux. Pas facile d'être jeune dans un monde de surreprésentation de l'épanouissement personnel sur fond de déconfiture mondiale. Et la solitude, ce n'est surtout pas un truc de célibataires paumés avec leur chat. Faut pas croire mon JD. C'est parfois pire à deux. Mais ça, tu le réalises après, en diagonale, dans ton lit queen. La solitude en binôme est un pis-aller que bien des gens préfèrent au célibat choisi. J'observe nos solitudes depuis si longtemps. Hier, celle de ce vieux monsieur voûté au point d'être déjà prêt à ramasser les crottes de son petit chien qu'il promenait. Celle de cette femme en situation d'itinérance devant chez moi, qui se brosse les dents sur le palier d'une maison aussi abandonnée qu'elle. Elle y a élu domicile pour l'été. Celle de ce jeune couple que je croise, muet, le cœur lourd ensemble, mais seul. Celle de cette vieille dame qui me fait des « Hola, hola, ¿cómo estás? » comme si elle me connaissait. Celle de l'immigrante qui débarque en ville et suit le mouvement sans connaître personne. Nos solitudes en parallèle, ça fait des lignes droites qui ne se touchent jamais. Et si on se frôle par inadvertance, on s'en excuse d'avance. Solitude et isolement. La solitude, c'est le lot de tous, de la naissance à la mort. Elle te suit partout, une ombre tenace où tu peux te réfugier au besoin, mais qui pèse parfois au point où tu n'en peux plus de cette compagnie trop envahissante. Je la devine parfois à travers les lignes des lecteurs qui m'écrivent. Je l'entends dans cette phrase glissée entre deux pièces musicales, debout au milieu de la foule du MTLUS, en me dandinant devant angine de poitrine, juré. J'ai téléphoné à un centre d'écoute il y a 2 jours. J'entends tout cela. Il y a une honte à se sentir seul, peu importe l'âge. Comme si c'était votre faute, alors que toute une structure sociale vous y pousse. Et pour les célébrités, la notoriété a une façon bien particulière de les isoler. Elles ne peuvent soutenir leur personnage aux yeux des autres. Elles ne veulent pas décevoir non plus. Elles ferment les volets. La solitude, ma meilleure ennemie. Une sympathique qui pourrait tuer, comme l'a décrit une amie écrivaine. C'est qu'il faut distinguer la solitude recherchée qui permet de se recharger, nécessaire à beaucoup d'artistes en création, de l'isolement, loneliness, qui est une expérience de détresse perçue ou subie. Et on peut vivre les deux dans une même journée. J'en atteste. Dans la solitude, je suis parmi moi-même, en compagnie de moi-même, et donc deux en un, tandis que dans la désolation, je suis en vérité un seul, abandonné de tous les autres, écrivait la philosophe Hannah Arendt. Dans son rapport intitulé « Our Epidemic of Loneliness and Isolation », l'ex-médecin en chef des États-Unis définit plusieurs pistes, dont la négativité sociale. Le climat actuel entourant l'élection de Trump et ses retombées sur l'incertitude mondiale ne font qu'accentuer notre besoin de repli, comme des animaux traqués qui cherchent leur terrier. L'isolement se crée à force de perte de confiance, de méfiance, de désolidarisation, d'écran-refuge, de manque d'appartenance à une communauté ou à une famille choisie. La COVID nous a fait perdre plusieurs aptitudes sociales et comme beaucoup de gens, j'ai l'impression de ne jamais les avoir totalement retrouvées. CQ. Dans son magnifique roman graphique CQ, un voyage dans la solitude contemporaine, l'artiste américaine Kristen Radke fait le tour de cette solitude dans laquelle nous coucounons et qui ressemble à une épidémie. Dans ses recherches, elle nous montre que c'est une maladie de pays riches, que la honte est effectivement au rendez-vous. Si je suis seul, c'est que personne ne m'aime. Et c'est aussi une prophétie autoréalisatrice. Je me sens seul, deviens, tout le monde est contre moi. À l'écart entre les relations qu'on a et les relations qu'on désire, c'est dans cette brèche que la solitude s'insinue, écrit l'autrice-dessinatrice. Mais ce qui m'a le plus étonné dans son livre, c'est la contagion inhérente à la solitude. Selon une étude menée par John T. Cacioppo, un expert en solitude, la solitude survient en grappe, s'étendant jusqu'au troisième degré à partir d'un noyau solitaire. Chaque personne qui en souffre la propagerait autour d'elle, comme la mauvaise humeur. Pas étonnant qu'on parle d'épidémie d'ici 2030, car c'en est une, et les écrans ne font que nous isoler davantage, une solution plus simple que de sortir de notre abri. Dans son livre « Cent ans d'amour », Jeannette Bertrand raconte que son père, marié, se plantait à l'arrêt d'autobus et faisait semblant d'attendre pour parler avec des gens après sa retraite du commerce. Aujourd'hui, il jouerait peut-être aux cartes en ligne. Aller vers l'autre exige un effort constant, mais comme écrivait un ami Facebook qui cherchait à nouer des liens, « Je connais plein de gens et je ne suis proche de personne ». J'ai 36 ans, j'ai une situation matérielle quand même très enviable, overall, et je ressens de la solitude. Une maladie de pays riche et une solution qui ne coûte rien. Citation. Je l'ai trouvée devant ma porte un soir, que je rentrais chez moi, partout. Elle me fait escorte, elle est revenue, elle est là. Barbara, la solitude. Par elle, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Georges Moustaki, ma solitude. Je t'informe, et tu le sais déjà, que je suis ironique depuis que je respire, et depuis que la bêtise mène le monde tout droit à la violence conjuguée à tous les temps, à toutes les personnes et à tout jamais, depuis que le monde n'est pas du monde, et que je n'y suis plus pour personne. Hélène Monette, Le monde n'est pas du monde. C'était Nos solitudes en parallèle, un texte de José Blanchette paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir.